À partir de ce dimanche, 4 représentations de la Traviata de Verdi à Dijon dans l'auditorium de l'Opéra. C'est une production maison, plus exactement une coproduction avec l'Opéra de Strasbourg, à la mise en scène Amélie Niermaier, et vous serez Deborah Waldman à la tête de l'orchestre Dijon-Bourgogne, des chœurs de l'Opéra de Dijon et puis évidemment des solistes qui vous rejoignent pour l'occasion. Je vais me permettre de commencer par une question personnelle. Diriger la Traviata, c'est une envie, une crainte ou un devoir?
Diriger la Traviata, c'est une mission. C'est une mission pour faire vivre cette œuvre qui a tellement à nous dire aujourd'hui, avec cette musique incroyable, les drames. Et à chaque fois que je l'étudie, je ne cesse pas d'être émerveillée par ce chef-d'œuvre. Donc, c'est une mission avant tout. Et puis, vous savez, ça faisait partie de mes grands rêves, comme beaucoup d'autres œuvres qui sont là dans le grand répertoire que je pense qu'il faut avoir fait avant de mourir. Notamment, par exemple, la 9e de Beethoven, le Requiem de Mozart, la première de Brahms, la 6e de Tchaïkovski, etc.
On vous a vu diriger Tosca il n'y a pas si longtemps. Vraiment, la Traviata, c'est au-dessus de tout.
Ça dépend, en fait. Je peux vous dire, Tosca, c'était au-dessous de tout au moment où je le faisais. C'est ça, la grande capacité d'émerveillement du moment, c'est que c'est quand on se plonge dedans, ça devient supérieur.
Comment peut-on expliquer le succès de cette œuvre-là? Alors, j'ai bien entendu tout ce que vous venez de nous dire, mais en préparant notre conversation, j'ai trouvé sur un site de musique en ligne quelques 902 enregistrements de la Traviata. Et pour revenir à Dijon, les 4 représentations sont complètes et depuis un moment.
Bien sûr, il y a la musique qui est pleine de tubes où tout le monde a à l'oreille les fameux Libiamo. Tout le monde connaît cette air. Il y a beaucoup d'autres tubes, des pépites qui sont comme ça incrustées dans le déroulé de la pièce. Mais je pense aussi que le thème est très fort. L'histoire d'un amour sincère et d'une femme qui se sacrifie par des valeurs morales et quelque part, avec toujours les héroïnes qui meurent à la fin, il y a une espèce de catharsis qui s'est fait. Donc, la Traviata, particulièrement par cet amour qui est un peu naïf au départ et qui surtout est inévitable pour elle. Elle était touchée tellement qu'elle pouvait pas résister. Elle était obligée de laisser sa vie d'avant, donc sa vie de courtisane, et d'aller s'installer à la campagne avec Alfredo. Et cette sincérité, cette changement, cette inévitabilité, si on peut dire, je trouve que ça touche beaucoup des gens.
Et surtout, et ça c'est vraiment flagrant, le génie de Verdi, comment il a souligné, comment pour moi il a vraiment habité, comment il a créé cette œuvre, parce que même la pièce littéraire, c'est pas la même chose que la Traviata de Verdi.
Vous parlez de l'œuvre littéraire, c'est Alexandre Dumas, fils, l'histoire de la Dame aux Camélias. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un vécu presque commun entre le musicien et le romancier?
Complètement. Surtout que le musicien, à cette époque-là, avait une liaison extra-conjugale, c'est-à-dire qu'il était fréquenté une dame avec qui il n'était pas marié. Et donc, il s'est vu un miroir dans cette histoire de Traviata et il voulait aussi, à mon avis, un peu critiquer la société de l'époque.
Société de l'époque, oui, mais qui n'est pas prête à accepter le message à tel point qu'il est obligé de transposer l'action bien avant.
Exactement.
Le milieu du 19e siècle.
C'est même les critiques de l'époque disaient qu'une dame de cette condition, une femme courtisane, mise en valeur comme héroïne, auquel le public pourrait s'attacher, n'est pas un bon sujet.
L'univers.
Pardonnez-moi, mais je reviens vers la popularité de l'œuvre. Vous avez parlé de ces airs que l'on attend. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que lorsque vous jouez, lorsque vous dirigez la Traviata, on vous attend à l'air connu? Je dirais pas qu'on vous attend au tournant, mais il y a un peu de ça quand même.
Oui, il y a une grande attente de la part du public. Et pour nous, pour les musiciens, c'est encore plus challenging. Ça veut dire que ça nous donne encore plus envie de le faire très bien et de surprendre quelque part. Donc, on ne va pas juste le jouer, on va le jouer... en fait, je pense qu'on joue juste jamais. Chaque fois qu'on joue, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, j'espère qu'on arrivera à quelque chose de plus encore.
Est-ce que ça n'impose pas des exigences en matière de recrutement des solistes? Les grands noms de l'art lyrique s'y sont collés à la Traviata, de Callas à Pavarotti, et j'en passe, beaucoup.
Tout à fait. Là, on sait que... on a des solistes de très grande qualité qui l'ont fait beaucoup de fois. Donc, c'est un rôle qui, comme on dit, les colle à la peau. On a trouvé une cohérence entre, parce que à chaque fois, ils doivent s'adapter. Et un pour ma vision et deux pour leur partenaire. Donc, et ils ont tous une intelligence musicale extraordinaire. Donc, je trouve que là, on a bien trouvé une harmonie grâce à ces super castings faits par Mathieu Pourdois. Donc, on a Mélodie Loulédian, que vous connaissez déjà, parce qu'elle a fait avec nous Don Pasquale. On a Serban Vassil, dans le rôle du père, et qui a une virtuosité, mais vraiment impressionnante. Et puis, David Astorga, qui est notre... c'est vraiment un Pavarotti, c'est incroyable. Il a une voix, il fait tout ce qu'il veut avec, et avec une aisance, avec un drame.
Thank you.
J'ai lu quelque part que vous abordiez Traviata. Alors, c'est aussi une question à poser à la metteuse en scène, bien sûr, mais tout de même, avec un regard renouvelé, fin de citation. Vous ne craignez pas de faire peur au gardien du temple ?
Alors, je pense au contraire qu'on est obligé de se questionner en permanence. Donc, en effet, je suis au courant des traditions. Je me suis informée, j'ai entendu beaucoup des enregistrements. Mais à la fin, on est obligé, parce que c'est notre métier, de donner notre vision. Et il y a aussi les révolutions baroques qui ont, depuis les grandes traditions lyriques, il y a les révolutions baroques qui ont passé par là. Donc, il y a une certaine façon un peu différente même de produire les sons, chez les corps notamment. Là, on est sur un instrument moderne, mais il y a quand même des choses, ça se voit sur les coups d'archet, sur les sonorités qu'on cherche. Et puis, à la fin, ça va donner une espèce de, comme vous avez dit, version renouvelée, actualisée, révisitée, mais c'est un peu notre devoir à chaque fois. Surtout grâce à Amélie, parce que c'est le visuel qui fait ça plus que le sonore, de façon évidente. Elle a situé cette Traviata dans les années 80. C'est très actuel, disons osé aussi, je pense, comme mise en scène. Donc, il y aura beaucoup de choses peut-être pas habituelles à voir. Il y aura beaucoup du mouvement. Emilie aime beaucoup les détails, à droite, à gauche. Tout le temps, il y a des choses qui se passent sur scène et beaucoup de lectures en même temps. Et à la fois, il y a la lecture principale. Donc, il y a cette grosse lecture principale et toutes les lectures secondaires autour.
Est-ce que ça ne pousse pas les solistes, les chanteurs, à devenir peut-être encore plus comédiens qu'ils n'étaient avant?
Oui, mais non, parce que je pense que l'opéra, c'est quand même avant tout la musique. Donc, en effet, le metteur en scène, il imagine. Mais à la fin, quand on arrive sur scène et puis on dit « Ah, mais non, en fait, ça, il peut pas chanter en sautant de à droite à gauche. Il a besoin de son appui, il a besoin d'être par terre sur un sol solide pour pouvoir vraiment ancrer son poids, pour avoir cet écu. » Donc, il y a des questions physiques à la fin, si vous voulez, négociables.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où un soliste ou une soliste dit « Non, ça, je peux pas le faire » ou que la chef d'orchestre que vous êtes dit « Non, ça, c'est pas réalisable ».
Voilà, c'est plutôt moi parce que les chanteurs, cette caste en tout cas, ils sont vraiment, vraiment adorables. Ils ont vraiment accepté beaucoup de choses. Et c'est moi qui suis allée un peu voir en disant « Bon, là, franchement, un aigu comme ça, elle peut pas le faire accroupi » ou des choses comme ça. Du coup, on a trouvé une espèce d'équilibre et des compromis.
Deborah Vanneman, on va pas raconter l'histoire, vous y avez fait un peu allusion au début de notre conversation. Ça commence très joyeusement, la Traviata, ça ne se poursuit pas aussi joyeusement. La musique suit l'action.
Alors là, il y a la musique, elle est pour moi construite une espèce de spirale, quelque chose d'ascendant avec des points névralgiques. Okay, moi, je fais l'allusion comme une espèce de cathédrale gothique. Quelque chose qui va vers les hauts tout le temps. Pourquoi? Parce que donc, en effet, ça commence terre à terre dans les fêtes mondaines et il y a les chœurs qui, à chaque fois qu'il arrive, il est un peu, il détend. Il est des moments de philosophie. Il nous donne beaucoup de mots sages de la vie. Mais voilà, il détend la tension qui est dans les particuliers. Le chœur, il est collectif et il respire. Et tout au fond, comme vous avez dit, il y a une trajectoire comme ça vers quelque chose de tragique. Et pour moi, donc, j'ai fait une analyse musicale dans laquelle j'ai trouvé des points de résonance dans les actes 1, avec les actes 3. Je suis sûre que Verdi en a pensé, qui sont tout simplement évolutifs. Donc, on entend, par exemple, Moro la mia memoria, là, le premier acte. Et à la fin, oh Dio morir si giovane, ce moment-là. C'est vraiment, ça fait écho. Une fois, elle dit, je vais mourir, et ma mémoire aussi. Et à la fin, elle est désespérée parce qu'elle va mourir si jeune, parce qu'elle a compris.
Est-ce que ça veut dire que ça demande de la part de l'interprète de Violetta une adaptation permanente, si je peux dire? C'est-à-dire qu'on va de la performance à l'air qui peut sembler simple.
Oui, on appelle ça l'évolution psychologique du personnage. Et donc, elle doit évoluer avec. Et c'est ça que vous avez évoqué, les chanteurs qui sont acteurs, parce qu'en effet, il y a des récits chantés, mais dans lesquels leur qualité d'acteur ressort beaucoup, parce qu'ils sont obligés de mettre au service du chant cette drame.
Deborah Vanneman, il n'y a plus une place malgré les 4 représentations données donc ce dimanche à 15h, mardi, jeudi et samedi à 20h à l'auditorium de l'Opéra de Dijon. Mais je l'ai dit, c'est une coproduction avec l'Opéra de Strasbourg.
Absolument. Après, tout, vous savez, dans la coproduction, souvent c'est le directeur des opéras qui décide. Ça sera la même mise en scène, ce qu'on dit une reprise, mais avec des nouveaux chanteurs, nouveaux chefs. Et c'est comme ça que ça se passe souvent.
Merci Deborah Vanneman.
Avec plaisir.